La délivrance des documents officiels prit un certain temps et nos plans s'en trouvèrent contrariés. Au lieu d'atteindre Winchester le soir même, nous descendîmes à Thor, situé dans la propriété du Hampshire de M. Nate Jameson lui-même. N'ayant pu nous recevoir en personne, il nous avait communiqué l'adresse du sergent Coventry de la police locale qui avait en charge l'enquête. C'était un homme grand, mince, à l'apparence cadavérique, aux manières feutrées et qui suggérait qu'il en savait bien plus qu'il ne voulait en dire. Il avait en outre la curieuse habitude d'abaisser sa voix dans un murmure pour annoncer ce que l'auditeur croyait être d'une importance capitale, mais qui se révélait en réalité d'une banalité déconcertante. Derrière ces habitudes curieuses, il me fit cependant l'effet d'un homme simple et honnête, qui n'était pas trop fier pour avouer qu'il peinait à résoudre cette affaire et que toute aide serait la bienvenue. En tout cas, je préfère que ce soit vous plutôt que Scotland Yard, monsieur Holmes, dit-il. Si le Yard prenait l'affaire en main, ce serait un désaveu complet pour la police locale, qui, perdant ainsi toute chance de résoudre l'affaire, serait immédiatement taxée d'incompétence. En ce qui vous concerne, j'ai entendu dire que vous étiez fair-play. Oh, mon nom n'a aucunement besoin d'apparaître dans cette affaire, dit Holmes, au grand soulagement de notre hôte. Quand bien même je parviendrais à la résoudre. Mais c'est tout à votre honneur, monsieur Holmes. Et votre ami, le docteur Watson, est digne de la plus grande confiance également, je le sais. À présent, monsieur Holmes, avant que nous nous mettions en route, il y a une question que j'aimerais vous poser. Je ne la poserai à aucun autre que vous. Il jeta un regard autour de lui avant de prononcer ces paroles. Vous ne pensez pas que M. John Gibson puisse être impliqué personnellement? J'y ai songé. Vous n'avez pas encore rencontré Miss Dunbar. Oh, c'est une jeune femme merveilleuse à tout point de vue. Il aurait pu vouloir écarter sa femme. Ces Américains sont plus prompts de la gâchette que nous ne le sommes, nous autres Britanniques. C'était son revolver, vous le saviez. Cela a-t-il été clairement établi? Oui, monsieur, oui, c'est l'un d'une paire qu'il possédait. L'un d'une paire? Où est l'autre? Eh bien, le gentleman possède un certain nombre d'armes à feu de toutes sortes. Nous n'avons jamais réussi à retrouver une autre arme exactement identique, mais nous avons identifié la boîte l'ayant contenue. Celle-ci était faite pour deux. Si ce revolver possède son double, vous devriez être en mesure de le retrouver. Eh bien, oui, nous avons regroupé et entreposé dans la maison toutes les armes que nous y avons trouvées, et si vous vouliez bien vous donner la peine d'aller les examiner. Plus tard, peut-être, rendons-nous dans un premier temps sur les lieux de la tragédie. Cette conversation s'était tenue dans une petite pièce de l'humble cottage du sergent Coventry, qui faisait également office de poste de la police locale. Après une marche d'environ un demi-mile dans une lande balayée par les vents, jonchée de fougères se fanant, toute d'or et de bronze, nous atteignîmes une petite porte donnant sur la propriété de Thor. Une allée traversait la réserve destinée aux faisans, puis, parvenus à l'embouchure d'une clairière, nous pûmes apercevoir la demeure imposante à colombage, mi-style Tudor, mi-architecture georgienne, se dressant au sommet d'une colline. Non loin de nous se dessinait un long étang entouré de roseaux, resserré en son centre et qui l'enjambait un pont de pierre permettant le passage des voitures et qui le séparait presque en deux petits lacs. Notre guide s'arrêta peu avant de s'engager sur le pont et désigna un endroit au sol. On a retrouvé le corps de Miss Jameson gisant ici. J'y ai laissé cette pierre pour marquer l'endroit. J'imagine que vous vous êtes trouvé sur les lieux avant que le corps ne soit déplacé. Oui, je fus appelé immédiatement pour après le drame. Et qui a donné l'ordre de vous envoyer chercher? Monsieur Gibson lui-même. Dès que l'alerte fut donnée, juste après qu'il se soit rué hors de la maison avec les autres, il a insisté pour que rien, absolument rien, ne soit déplacé avant que la police n'arrive. C'était pertinent. J'ai lu dans les journaux que le coup avait été tiré à bout portant. Oui, monsieur, c'est exact. Juste sous la tempe droite. Oui, à cet endroit, très précisément, monsieur. Et comment le corps était-il étendu? Sur le dos, monsieur. Oh, il ne portait aucune trace de strangulation. Pas de marque, non, pas d'arme. Le billet griffonné de la main de Miss Dunbar fut retrouvé froissé dans la main gauche. Froissé, avez-vous dit? Oui, monsieur, nous avons eu du mal à l'en dégager. Mais voilà qui est d'une importance capitale. Cela exclut l'hypothèse que quelqu'un d'autre ait pu glisser le billet dans la main de M. Gibson après sa mort, pour nous mettre sur une fausse piste. Bien, alors le billet, si je me souviens bien, était fort bref. Je serai au pont de Thor à 21 h. Signé G. Dunbar. C'était bien cela, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. Miss Dunbar a-t-elle reconnu avoir écrit ce billet? Oui, monsieur Holmes. Et quelle explication a-t-elle fournie? Elle réserve sa défense pour les assises et elle n'a rien voulu dire. L'affaire est extrêmement intéressante. Le motif du billet reste des plus obscurs, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Holmes, dit le sergent, cela m'a paru à moi, or, si je suis assez hardi pour le dire, être le seul point clair de toute l'affaire. Holmes secoua la tête. Et en admettant que le billet soit authentique et bien dans la main de Mrs. Dunbar, il a certainement été réceptionné par sa destinataire quelque temps avant l'heure qui était indiquée, disons, 1 à 2 heures avant. Alors pourquoi, en ce cas, Mrs. Jimson était-elle encore froissée dans sa main gauche? Pour quelle raison obscure aurait-elle songé à l'apporter avec elle? Elle n'avait nul besoin de s'y référer durant l'entretien qu'elle devait avoir avec Miss Dunbar. Cela n'a-t-il pas attiré votre attention? Eh bien, monsieur, maintenant que vous le dites, je dois reconnaître que cela mérite réflexion. Permettez-moi de rester ici même en silence durant quelques minutes, je vous prie, afin de réfléchir plus intensément à la question. Il s'assit sur le parapet de pierre du pont, et je pus voir ses prunelles grises scruter le moindre détail autour de lui. Il sauta de nouveau soudain sur ses pieds, courut à la rambarde opposée, sortit une loupe de sa poche et se mit en devoir d'examiner minutieusement le rebord de pierre. « Voilà qui est curieux, » dit-il. « Oui, monsieur, oui, nous avons en effet noté cet éclat sur la rambarde. Je suppose qu'il s'est produit lors du passage d'une voiture. » La rambarde était couleur de pierre grise, à l'exception de l'endroit qu'avait désigné Holmes, où un rond blanchâtre de la taille d'une pièce de monnaie se distinguait nettement. En l'examinant de près, sa texture attestait qu'il était advenu d'un coup sec. Seul un choc d'une certaine force a pu être à l'origine de ceci, dit Holmes d'un air pensif. De sa canne, il frappa sur le parapet de pierre à plusieurs reprises, sans y laisser la moindre marque. Mais le choc a dû être violent, et il s'est produit d'une manière curieuse, du bas vers le haut, en s'encastrant sous la rambarde du parapet. Oui, mais il se trouve à une distance de moins 15 pieds de l'endroit où l'on a retrouvé le corps. Oui, à une distance de 15 pieds du corps, en effet. Bon, il se peut que ce choc n'ait rien à voir avec notre affaire, mais il n'en est pas moins remarquable. Mais ne crois pas que cet endroit ait autre chose à nous apprendre. Vous avez dit que vous n'aviez relevé aucune empreinte de pas, n'est-ce pas? Non, le sol était parfaitement lisse, monsieur, aucune trace. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons nous en retourner. Nous ferons tout d'abord un détour par la demeure afin d'y examiner les armes que vous y avez entreposées. Puis nous nous rendrons à Winchester, car je désire parler à Miss Dunbar Avant de poursuivre cette enquête, Monsieur Lyle Jameson n'était pas encore de retour de la ville. Nous rencontrâmes dans la demeure le névrotique Monsieur Butters, que nous avions reçu plus tôt dans la matinée. Il nous désigna, dans un soupir sinistre, l'étrange collection d'armes de toutes formes et de toutes tailles que son employeur avait accumulées au gré de sa vie d'aventurier. « Oh, quiconque connaissant l'homme et ses méthodes n'est pas sans savoir que M. Gibson a de nombreux ennemis, dit-il. Celui-ci dort d'ailleurs avec un revolver chargé dans un tiroir de son chevet. C'est un homme violent, monsieur, qui n'est pas sans nous inspirer la plus grande crainte. Oh, je suis sûr que la pauvre dame, feu son épouse, était la plus exposée. Avez-vous jamais été témoin de violence qu'il aurait exercée à son encontre? Non, 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 je ne peux pas dire, mais j'ai eu l'occasion de l'entendre lui adresser des paroles dures, empreintes d'un mépris cinglant, et cela même devant les domestiques. Notre milliardaire ne semble pas se comporter en privé d'une manière exemplaire, remarqua Holmes alors que nous reprenions le chemin de la gare. Eh bien, Watson, nous avons réuni quantité de faits, dont certains entièrement nouveaux, et je ne vois guère l'aube d'une nouvelle hypothèse se profiler à l'horizon. En dépit de l'aversion que son employeur inspire à M. Bertz, ce dernier a toutefois eu l'honnêteté de me certifier que M. Gibson se trouvait bien indubitablement dans sa bibliothèque à l'heure à laquelle l'alarme a été donnée. La table avait été desservie aux alentours de 20h30 et tout jusqu'alors était parfaitement en ordre. Il est vrai que l'alarme n'a été donnée que tardivement dans la soirée, mais le drame s'est certainement produit à l'heure du rendez-vous indiqué sur le billet. Rien ne prouve que M. Gibson soit ressorti de la maison après son retour de la ville aux environs de 17h. Et Miss Dunbar, elle n'a mais, si j'ai bien compris, qu'elle avait bien donné rendez-vous à Mme Gibson au pont de Tor. Et pour se conformer au conseil de son avocat, elle ne veut rien révéler de l'objet de ce rendez-vous, réservant sa défense pour le tribunal. Nous avons plusieurs questions de la plus haute importance à adresser à cette jeune dame, et mon esprit ne sera pas en repos avant que je ne l'aie vue. Je dois vous avouer que cette affaire me semble très, très mauvaise pour Miss Dunbar, si ce n'était ce seul détail.
De quel détail parlez-vous, Holmes?
Bien, de la découverte du revolver dans sa garde-robe.
Mais par ma foi, Holmes, m'écriai-je, voilà bien la preuve évidente de la culpabilité de la jeune dame.
Détrompez-vous, Watson. Dès ma première lecture des faits dans les journaux, cela m'avait paru très étrange. Et à présent que je suis davantage impliqué dans cette affaire, ce fait incarne ma seule lueur d'espoir. Nous devons chercher la cohérence. Derrière une preuve aussi manifeste se cache peut-être une intention délibérée de tromper.
Oh, j'ai peine à vous suivre.
Eh bien, supposons un instant, Watson, que vous-même soyez une femme qui désire évincer une rivale en commettant de sang-froid un meurtre prémédité. Vous avez tout planifié. Vous avez écrit un billet par lequel vous avez amené votre victime à venir vous retrouver. Vous êtes en possession de l'arme avec laquelle vous allez commettre le meurtre. Vous l'accomplissez tel que vous l'aviez prémédité. Songez-vous vraiment que vous iriez, après vous avoir commis un meurtre avec une telle habileté, ayant pris de si grandes précautions, vous compromettre par l'oubli de l'âme du crime que vous iriez jeter, non pas quelque part au milieu de l'un de ces buissons touffus qui nous entourent et qui auraient pu dissimuler à jamais votre crime, mais chez vous, au fond de votre armoire, là où chacun irait en premier lieu chercher des indices. Bien que nul ne puisse vous qualifier d'être particulièrement rusé et calculateur, Watson, j'ai peine à croire que vous feriez ceci.
Peut-être aurais-je agi ainsi sous le coup de l'émotion. Non, 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 Watson. Je puis admettre que cela soit possible. Quand un crime est froidement mérité, la manière de le dissimuler l'est aussi. Je suppose donc en conséquence que nous nous trouvons en présence d'une fausse piste. Mais il y a encore tant de détails accablants. Eh bien, nous allons tenter de les examiner à nouveau. Lorsque l'on change de point de vue, Watson, il arrive que les points les plus obscurs se révèlent soudain des indices d'une éblouissante clarté. Prenons par exemple le revolver. Miss Dunbar dément avoir eu jusqu'à la connaissance même de son existence. Supposons qu'elle soit sincère. Qui donc a placé l'arme sur le plancher de sa garde-robe? Il s'agit sans nul doute de quelqu'un qui désirait faire inculper Miss Dunbar du meurtre de Miss Jessam. Cette personne ne serait-elle pas elle-même l'auteur du meurtre? Vous voyez, Watson, comment nous pourrions immédiatement saisir l'extrémité d'un fil nouveau de cette enquête? Suivons-le pour voir jusqu'où il nous conduira. Les formalités ayant pris un certain temps à s'accomplir, nous fûmes obligés de passer la nuit à Winchester. Dès le lendemain matin, accompagné de Maître Joyce Cummings, l'éminent avocat chargé de la défense de Miss Dunbar, nous fûmes autorisés à pénétrer dans la cellule où était retenue la jeune accusée. D'après ce que j'avais jusqu'à présent lu et entendu, je m'attendais à rencontrer une femme d'une grande beauté. Mais je ne pourrai jamais oublier l'impression que produisit effectivement sur moi Miss Dunbar. Il n'était pas étonnant que le multimillionnaire lui-même ait succombé à son charme, pressentant en elle une force plus puissante que la sienne, une force susceptible de le contenir et de le guider. Mais bien que l'on pressentît ce pouvoir en examinant ce visage à la physionomie pourtant sensible et limpide, l'on sentait que cet être, bien qu'il en eût la capacité, serait incapable de jamais commettre un acte impétueux, parce que la noblesse de caractère qu'il possédait ne le pousserait jamais qu'à commettre de bonnes actions. Miss Dunbar était brune, grande, dotée d'un visage noble et d'une présence imposante, mais dans ses yeux sombres se lisait la peur de la créature traquée et impuissante, pressentant les filets se resserrer autour d'elle, sans espoir de leur échapper. Cependant, lorsqu'elle comprit l'aide que venait de tenter de lui apporter mon célèbre ami, ses joues blêmes se colorèrent à nouveau, et une lueur d'espoir scintilla dans le regard qu'elle tourna vers nous. « Monsieur Nell Gibson, vous a-t-il fait part de ce qui s'est passé entre nous ?» interrogea-t-elle à voix basse sur un ton agité. « En effet, répondit Holmes. Oh, nul besoin de vous tourmenter à ce sujet en rentrant dans les détails qui ont déjà été portés à notre connaissance. À présent que je vous ai rencontré, oh, je crois sans réserve ce que m'a rapporté M. Nell Gibson quant à l'influence que vous avez exercée sur lui, aussi bien que sur le caractère chaste de vos relations. Mais pourquoi n'avoir pas porté ces faits à la connaissance de la cour? Bien, il me semblait impossible qu'une telle accusation puisse être soutenue. J'ai songé qu'en patientant un peu, tout ceci s'éteindrait sans que nous ayons besoin de révéler aux yeux de tous une affaire de sentiments privés qui aurait pu être douloureuse pour la famille. Mais bien loin de s'atténuer, les soupçons sont devenus plus intenses. « Ma très chère jeune dame, s'écria Holmes dans un accès de ferveur, je vous conjure de ne pas sous-estimer la situation. Maître Cummings, ici présent, vous confirmera que les soupçons les plus graves pèsent sur vous et qu'il nous sera nécessaire de déployer toute notre énergie pour parvenir à les dissiper. Ce serait vous tromper que de vous affirmer que le danger que vous courez n'est pas grand. Aussi, apportez-nous toute l'aide que vous pourrez afin de faire la lumière sur cette affaire. Mais je ne vous dissimulerai rien. Dites-nous, en ce cas, quelles étaient vos véritables relations avec l'épouse de M. Jameson? Elle me haïssait, M. Holmes. Elle me haïssait de toute la force de son tempérament prototypical. Elle était de celles qui ne partageaient pas, et son amour pour son mari n'avait d'égal que la haine qu'elle me portait. Il est probable qu'elle se soit méprise sur le caractère de nos relations. Mes intentions étaient honorables, mais elle ne pouvait les comprendre. Elle, qui aimait si intensément, physiquement, ne pouvait soupçonner le lien moral, spirituel, qui nous unissait, son époux et moi. Elle ne pouvait concevoir que seul mon désir d'infléchir la volonté de son époux en faveur de bonnes actions me poussait à demeurer sous le même toit. Oh, je vois à présent combien j'ai eu tort. Rien ne justifie que j'ai tenu à rester, alors que même je me savais la cause d'une discorde si grave qu'elle aurait perduré quand bien même j'aurais quitté la maison. « À présent, Miss Dunbar, dit Holmes, je vous prie de nous relater très exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je puis vous dire toute la vérité, Monsieur Holmes, sans toutefois être en mesure de la prouver, car il y a des points cruciaux dont je ne puis expliquer et concernant lesquels aucune explication ne me vient d'ailleurs à l'esprit. Contentez-vous de nous livrer les faits, peut-être appartient-il à d'autres de vous en livrer l'explication. Bien dans ce cas, en ce qui concerne ma présence sur le pont de Thor cette nuit-là, elle est liée à un billet que j'avais reçu de Mrs. Gibson dans la matinée. Je l'ai trouvé sur un pupitre de la salle d'études. Elle avait dû l'y déposer elle-même. Le billet stipulait que nous nous retrouvions après dîner, car elle avait une chose importante à me dire. Je devais lui faire connaître ma réponse en la déposant au pied du cadran solaire du jardin, afin que personne ne soit au courant de notre entrevue. Je ne voyais aucune raison à toutes ces précautions, mais je fis cependant comme elle l'avait écrit et je lui confirmai notre rendez-vous. Elle m'avait demandé, dans son billet, de détruire immédiatement celui-ci après l'avoir lu. Je le brûlai donc dans la cheminée de la salle d'études. Mrs. Gibson avait une grande terreur de son mari, qui la traitait très bien souvent avec une certaine rudesse, que je lui avais d'ailleurs reproché à maintes reprises, et je mis sur le compte de la peur toutes ces précautions pensant qu'elle redoutait que son mari découvre le projet de notre entrevue. Et pourtant, pour sa part, elle n'a pas manqué de conserver soigneusement votre réponse. Oui, j'ai d'ailleurs été très surprise d'apprendre qu'elle avait tenu le billet que je lui avais écrit dans la main en mourant. Bien, mais que s'est-il passé ensuite? Je me suis mise en route un peu avant l'heure du rendez-vous convenu, et lorsque j'eus atteint le pont, je la trouvai qui m'attendait. Oh, je n'avais jusqu'à présent jamais encore réalisé combien la pauvre créature me détestait. Elle était devenue comme folle. En réalité, je pense qu'elle l'était réellement, de la folie particulière qui se nourrit d'un grand désespoir. Sinon, comment aurait-elle pu continuer à me côtoyer chaque jour, alors même qu'elle me vouait une haine si grande dans son cœur? Je ne vous répéterai pas ces termes exacts. Elle déversa soudain tout ce qu'elle avait de fureur sauvage dans un flot d'insultes. Bon, je n'ai rien répondu, je n'ai pas pu. Elle était terrifiante à voir. Je me suis contenté de plaquer mes mains sur mes oreilles et je me suis enfui en courant. Je l'ai laissée toute droite, vociférant encore à l'embouchure du pont. À l'endroit même où elle fut retrouvée, oui, à quelques mètres de là. Et pourtant, en supposant qu'elle ait trouvé la mort peu après que vous l'ayez quittée, vous n'avez pas entendu tirer? Non, je n'ai rien entendu. Mais en vérité, monsieur Holmes, j'étais si interloqué et horrifié par cette terrible et soudaine attaque que je me suis enfui avec pour seul but de me retrouver au plus vite dans le calme de ma chambre, sans prêter la moindre attention à ce qui se passait. Vous avez dit avoir regagné votre chambre Mais l'avez-vous quitté de nouveau avant le lendemain matin ?
Oui, lorsque l'alarme fut donnée.
À l'annonce que la pauvre créature avait été retrouvée morte, je me suis rué dehors avec les autres.
Avez-vous vu M. Jepson ?
Oui, il revenait justement du pont lorsque je le vis. Il avait envoyé chercher un médecin et la police.
À quel point vous a-t-il paru choqué ?
Oh, M. Gibson est un homme d'un tempérament très fort et très contenu, M. Holmes. Je le crois incapable de jamais montrer ses sentiments en public. Cependant, à moi qui le connais si bien, il m'a paru, oui, profondément affecté. À présent, venons-en à un point crucial. Ce revolver qui fut trouvé dans votre chambre, l'aviez-vous déjà vu auparavant ?
Jamais, je le jure.
Et quand a-t-il été trouvé ?
Le lendemain matin, lorsque la police perquisitionna.
Au milieu de vos vêtements ?
Oui, au sol de ma garde-robe, sous mes robes.
Vous ne savez pas depuis combien de temps il se trouvait là ?
Il se trouvait par là la veille.
Comment le savez-vous ?
Mais parce que j'avais justement rangé ma garde-robe.
C'est donc certain.
Ah, il ne fait en conséquence aucun doute que quelqu'un est entré dans votre chambre et y a placé là le revolver afin de vous faire inculper.
Oui, cela se pourrait, en effet.
Et quand précisément ?
Cela n'a pu se passer qu'à l'heure des repas ou encore aux heures où je me trouvais dans la salle d'études avec les enfants.
La salle d'études même dans laquelle vous avez trouvé le billet.
Oui, je m'y suis trouvé la matinée tout entière.
Merci, Miss Dunbar.
Y aurait-il un autre détail susceptible de nous être utile qui vous viendrait à l'esprit ?
Non, rien ne me vient.
Le parapet de pierre du pont présentait une marque de choc, une marque parfaitement distincte, d'un choc tout à fait récent, jusqu'à l'opposé de l'endroit où se trouvait le corps.
Auriez-vous une explication à cela ?
Cela doit être une simple coïncidence.
Coïncidence curieuse, Miss Dunbar, très curieuse.
Pourquoi le choc se serait-il produit en même temps que la tragédie et au même endroit très exactement ?
Mais quelle aurait pu en être la cause ?
Seul un choc d'une grande violence aurait pu laisser une marque sur la pierre du pont.
Holmes ne répondit pas.
Sur son visage pâle et expressif avait soudain paru cette expression particulière, si caractéristique de son génie. Le bouillonnement de son esprit était si manifeste qu'aucun de nous n'osa l'interrompre. Nous restâmes tous trois, avocat, accusé et moi-même, assis, contemplant en silence sa réflexion intense et absorbée. Soudain, il sauta sur ses pieds, vibrant d'une énergie fébrile et d'un besoin pressant d'action.
« En route, Watson, en route » s'écria-t-il.
« Qu'y a-t-il, monsieur Holmes ?» demanda Miss Dunbar.
« On n'ayez aucune inquiétude, très chère jeune lady. Vous aurez de mes nouvelles sous peu. »
« Maître Cummins, je m'apprête à vous livrer des conclusions dont la teneur ébranlera l'Angleterre tout entière. »
Vous saurez tout avant-demain, Miss Dunbar. Mais d'ici là, recevez mon assurance que les nuages commencent à s'estomper et que je conserve le meilleur espoir de parvenir à faire toute la lumière sur cette affaire.
Le trajet n'était pas long de Winchester à Thor, mais mon impatience me le rendit interminable. Elle n'était rien, cependant, comparée à celle de Holmes, qui ne pouvait tenir en place, arpentait le compartiment. Nous en occupions seuls un de première classe, tambourinait nerveusement de ses longs doigts fébriles sur l'assise. Soudain, alors que nous approchions de notre destination, il s'assit face à moi, une main posée sur chacun de mes genoux, une lueur malicieuse dans le regard.
« Watson, dit-il, je ne doute pas que vous soyez comme à chacune de nos excursions, armé de votre revolver. »
Je l'étais toujours par précaution, car je savais que les pérégrinations de l'esprit de mon ami
avait tendance à le rendre bien peu soucieux de sa propre sécurité. Mon revolver s'était bien souvent avéré utile, et je ne manquais pas de le lui rappeler.
« Oui, je dois reconnaître que je manque parfois d'anticipation en la matière. Mais Watson, avez-vous aujourd'hui encore votre revolver sur vous ?»
Je l'exhibais de ma poche latérale. C'était une arme petite, maniable, mais très utile. Mon ami s'en saisit, désactiva le clan de sûreté, vida les balles du barillet et examina l'arme avec soin. « Elle est lourde, remarquablement lourde, » dit-il. « Oui, c'est un travail de belle qualité. » Holmes contempla le revolver, rêveur, pendant quelques instants.
« Savez-vous, Watson, » dit-il, « que je pressens que votre revolver va jouer aujourd'hui un rôle majeur dans la résolution de notre enquête.
« Mon cher Holmes, vous plaisantez. »
« Non, Watson, je suis très sérieux. Nous allons procéder à un test. Si le test s'avère concluant, la vérité éclatera devant nos yeux. Et de la réussite de notre test dépend entièrement la manière dont va se comporter votre revolver. Notons qu'une cartouche. Replaçons les cinq autres dans le barillet et réactivons le clan de sûreté. Voilà qui est fait. Or, cela augmente nettement le poids de l'arme et en fait à présent l'outil idéal.
Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se tramait dans l'esprit de mon ami, et celui-ci ne se donna d'ailleurs pas la peine de me fournir la moindre explication. Il se contenta de rester assis en silence jusqu'à ce que nous atteignîmes la petite gare de Thor. La vieille voiture délabrée que nous avions louée nous déposa un quart d'heure plus tard à la porte de notre taciturne sergent. « Un indice, monsieur Holmes ?» demanda celui-ci. « Quel est-il ? »
« Ben, il dépend entièrement de la conduite du revolver du docteur Watson ici présent, que voici, » répondit mon ami. « À ce propos, sergent, pouvez-vous me dire où me procurer 10 mètres de ficelle ?»
Le magasin du village nous fournit une pelote de la quantité désirée.
« Eh bien, je crois que nous avons à présent tout ce dont nous avons besoin, » dit Holmes. « Mettons-nous en route, voulez-vous ? Pour ce qui sera, je l'espère, la dernière étape de notre voyage. »
Le jour déclinant offrait à nos yeux un magnifique panorama automnal du Hampshire. Le sergent marchait à mes côtés, non sans jeter de temps à autre un regard critique et incrédule à mon ami, qui n'était pas sans laisser entrevoir la piètre opinion que celui-ci avait de sa santé mentale. À mesure que nous approchions de la scène de la tragédie, je pouvais percevoir, sous son apparence calme, l'agitation intérieure et nerveuse qui dévorait mon ami. Je lui en fis la remarque.
« Oui, Watson, oui, vous m'avez déjà vu manquer mon but. Bien que je sois doté d'un instinct remarquable pour ce genre de choses, oh, celui-ci me joue parfois des tours. Cette possibilité m'a semblé tout à fait plausible quand elle m'a traversé l'esprit pour la première fois dans la cellule de Miss Dunbar à Winchester. Mais l'esprit actif est retors et a pour inconvénient de sans cesse former de nouvelles hypothèses qui finissent parfois par évincer la première, souvent la bonne. Bien, Watson, ben nous voilà parvenus à notre but. Procédons à notre test, voulez-vous ? »
Tout en marchant, il avait solidement attaché une extrémité de la ficelle à la crosse de mon revolver. Nous étions parvenus sur les lieux de la tragédie. Il marqua avec la plus grande exactitude l'endroit indiqué par le sergent où le corps avait été retrouvé. Puis il fouilla les bruyères et autres fougères alentour jusqu'à ce qu'il y trouva une pierre de belle taille qu'il attacha à l'autre extrémité de la ficelle. Il suspendit ensuite de l'autre côté du pont la pierre, de telle sorte que celle-ci se balance librement au-dessus de l'eau.
Puis il se plaça à l'endroit exact où avait été retrouvé le corps de Mrs. Gibson, à quelques mètres de l'embouchure du pont, mon revolver dans une main, la ficelle tendue entre sa crosse et la lourde pierre se balançant de l'autre côté du parapet. « C'est parti !» s'écria-t-il. À ces mots, il porta le pistolet à sa tempe, puis le lâcha subitement. En un éclair, le pistolet, entraîné par le poids de la pierre, heurta de plein fouet le parapet et disparut au fond de l'eau. À peine ceci s'était-il produit, Hobbs avait couru s'agenouiller à l'opposé du parapet, et le cri de joie qu'il poussa nous annonça qu'il avait atteint son but. « Avons-nous jamais procédé à démonstration plus éclatante, Watson ? » s'écria-t-il. « Voyez-vous même, votre revolver vient de résoudre notre énigme !» Tandis qu'il parlait, il désignait une seconde marque qui venait d'apparaître juste sous la première, de forme et de diamètre parfaitement identiques sous la balustrade de pierre. « Nous resterons ce soir à l'auberge du village, » poursuivit mon ami en se relevant sous les yeux du sergent ébahi. « À l'aide d'un grappin, il ne fait aucun doute que vous serez en mesure de repêcher le revolver de mon ami, auprès duquel vous trouverez certainement un second dispositif, constitué également d'un revolver attaché à une ficelle et à une pierre. Dispositif dont s'est servi cette femme rancunière pour maquiller, après s'être donné la mort, son acte dans le but de faire accuser de meurtre une innocente victime. Faites savoir à M. Gibson que j'irai le voir demain matin dès que le nécessaire aura été fait pour innocenter Miss Dunbar. » Tard ce soir-là, tandis que nous fumions paisiblement nos pipes à l'auberge du village, Holmes revint brièvement sur les faits. « Je crains, dit-il, Watson, que le récit de l'énigme du pont de Thor, que vous n'allez pas manquer d'ajouter à vos annales, n'avantage pas la réputation que je m'étais forgée. J'ai été trop lent d'esprit et me suis égaré dans les méandres d'un imaginaire et d'une réalité qui sont pourtant les deux ingrédients essentiels à mon art. La marque sur le parapet de pierre était un indice amplement suffisant pour me conduire à la vérité, mais je l'ai considéré que trop tardivement. À ma décharge, il faut cependant admettre que l'esprit de cette femme était si subtil et diabolique qu'il n'était pas aisé de le percer à jour. Mais je ne crois pas qu'aucune de nos aventures ait jamais mis en lumière une telle conséquence possible de l'amour fou. Peu importait pour Mrs. Gibson que Miss Dunbar lui soit une rivale physique ou morale. À ses yeux, ceci apparaissait tout aussi impardonnable. Nul doute qu'elle ait tenu cette innocente jeune lady directement pour responsable de la distance et de la dureté que manifestait son mari à son égard, en réponse à son affection par trop démonstrative. Sa première résolution fut d'en finir avec la vie, et sa seconde de le faire de manière à entraîner avec elle dans sa chute celle qu'elle jugeait avoir été responsable de ses maux, mais dans une destinée bien pire encore que celle d'une mort physique et subite. Nous pouvons clairement dégager les différentes étapes de cette intrigue à présent. Celles-ci mettent en lumière un esprit d'une grande subtilité. Une preuve écrite a été très adroitement soutirée à Miss Dunbar, prouvant qu'elle avait choisi la scène du crime. Et dans son fervent désir que le billet soit découvert, Mrs. Gibson avait conservé celui-ci bien en évidence dans sa main jusqu'à son dernier souffle. Cela seul aurait dû suffire à orienter mes soupçons bien plus tôt. Puis elle s'arma de l'un des deux revolvers d'une même paire de son époux, alors que la demeure n'enfermait, comme vous avez pu le constater, un véritable arsenal dont elle se servit pour se donner la mort. Mais elle avait pris soin au préalable de placer la seconde arme identique le matin même au sol de la garde-robe de Miss Dunbar, après en avoir tiré une balle, ce qu'elle avait pu faire à l'insu de tous dans les bois environnants, afin de faire croire que l'arme avait servi pour elle. Puis elle se rendit au pont et ajouta, ajusta les derniers détails du plan diabolique qu'elle avait bâti afin de dissimuler immédiatement après sa mort la première arme. Et lorsque Miss Dunbar la rejoignit, elle exhala son dernier souffle en proférant des paroles de haine, puis, lorsqu'elle sut la gouvernante assez loin pour ne plus l'entendre, elle mit à exécution son terrible plan. Chaque pièce de notre puzzle est à présent à sa place, Watson. On lira peut-être dans les journaux que les torts aient dû être fouillés avant toute chose, mais il est aisé de former des hypothèses dès lors que l'on détient la solution. Quoi que l'on puisse en dire, il n'est pas si aisé de draguer un étang encombré de roseaux sans savoir précisément ce que l'on y cherche, ni davantage où le chercher. Bref, Watson, nous avons apporté notre aide à une jeune lady d'un caractère tout à fait remarquable, ainsi qu'à un homme qui ne l'est pas moins. Puissent-ils dans l'avenir unir leurs forces et le monde de la finance être assuré que M. Nell Gibson a tiré un enseignement de ces leçons terrestres amères qui lui ont été enseignées?